foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en formule Grande Entrevue. Cette année marquera le 5e anniversaire de la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François, encyclique portant sur la sauvegarde de la maison commune. Cet anniversaire est pour plusieurs l'occasion de reprendre ce texte et de pousser plus loin la réflexion sur le rapport des chrétiens à la création. Mon invité de ce matin ne fait pas exception. Dès le 21 mars, le frère André Descoteaux donnera à l'Institut de pastoral des Dominicains un cours intitulé « L'avenir de la maison commune, l'écologie et le pape François ». Alors, comment le pape François perçoit-il le défi environnemental? Quelles sont, selon lui, les causes de l'état actuel de notre maison commune? Que propose-t-il? Pourquoi le pape croit-il que, dans un monde multiculturel, l'Église peut prendre la parole sur ces enjeux? En quoi consiste cette vision d'une écologie intégrale qui est la sienne? Alors voilà quelques-unes des questions qui seront au cœur de ce cours, mais pourquoi ne pas amorcer dès maintenant la réflexion avec le frère dominicain et professeur invité à l'Institut pastoral, André Descoteaux. André Descoteaux, bonjour.
Bonjour.
Alors, André Descoteaux, vous êtes statisticien de formation, un matheux, comme vous le dites vous-même. Vous avez travaillé pendant 9 ans chez Bell Canada, en plus d'avoir enseigné les statistiques à l'Université McGill. Puis, vous êtes entré chez les Dominicains à l'âge de 35 ans, faisant votre profession dans l'Ordre des Frères Prêcheurs en 1987, pour être ensuite ordonné prêtre en 1992. Vous donnerez en mars et en avril prochain un cours autour de l'encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. Alors, comment s'inscrit votre intérêt pour la question environnementale dans votre parcours personnel que l'on pourrait qualifier d'atypique? Votre intérêt porte-t-il sur l'écologie directement ou plutôt sur les nombreux textes produits par le pape François?
Atypique, je dirais, quand je regarde le nombre de personnes qui se joignent aux communautés religieuses, chaque personne a son propre cheminement.
Exactement.
Bon, alors, mais disons qu'il y a longtemps que je m'intéresse aux questions sociales. Je me revois encore étudiant au collège jésuitiste, et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui nous avait présenté un texte très important de Paul VI, son encyclique sur le développement des peuples, Populorum Progressio. C'est un texte avec plein de vie, c'est un appel, c'est vraiment un texte qui invite le jeune que j'étais à réfléchir, à rêver. Et il y avait, je me souviens encore d'une formule qu'on répète de cette encyclique, le développement, c'est pour tout homme et pour tout l'homme. Alors, oui. Pour le jeune que j'étais, c'est comme une invitation à aller de l'avant.
Oui.
Et puis, un peu plus tard, en 1972, le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est un groupe composé d'économistes, scientifiques, fonctionnaires, qui essaient de réfléchir sur l'avenir de la planète et qui a publié un rapport qui s'intitule « Halte à la croissance ». Autrement dit...
Dès 72.
Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer si on continue à produire, à consommer, à vivre de la manière dont on vivait à l'époque? Alors, puis ensuite, ce qui est intéressant pour, comme dites le Mathieu que je suis, c'est l'approche était beaucoup par des simulations informatiques.
Ah oui.
Alors, mais en fait, comme le titre l'indique, déjà on avait établi qu'on ne pouvait plus continuer de la même façon. L'épuisement des ressources, la pollution, ce que notre Terre est capable de prendre, et ensuite l'impact sur la répartition des richesses. Déjà, là, il y a une sonnette là, d'alarme qu'on pouvait entendre. Et comme je vous le dis, je m'étais même dit, ah, ce serait bien un jour, sur une formation qui me permettrait de travailler dans des groupes comme ceux-là. Puis ensuite, bon, là, ça a été les études, le travail... Et puis, je me suis retrouvé chez les Dominicains, retour sur les bancs d'école, la philosophie, la théologie. Et j'ai fait la rencontre d'un Dominicain très connu, le frère Jean-Henri Lévesque, celui qui a fondé les facultés de sciences sociales à Laval. Puis qui me disait, « Bon, frère André, avec votre expérience que vous avez, peut-être vous devriez vous intéresser aux questions d'éthique économique. » Alors, je me suis retrouvé encore sur les bancs d'école. Là, j'étais à Oxford, à Paris. Et ça a été l'occasion pour découvrir ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Mm-hmm. La morale catholique, on l'associe beaucoup au comportement des individus. Mais aussi, il y a tout l'aspect que j'appelle de la société, l'éthique du travail, la paix, justement, l'écologie fait partie maintenant de ce domaine. Alors, ça a été, pour je dire, une sorte de redécouverte de ces intérêts que je portais depuis longtemps.
Depuis l'adolescence.
Oui.
Et je sais que vous avez été un lecteur passionné de Teilhard de Chardin. Est-ce qu'il y a un lien entre cet intérêt pour Teilhard de Chardin et peut-être les questions, j'allais dire, cosmiques presque, ou écologiques même?
En fait, je dirais que Teilhard de Chardin nous pose un univers qui est en croissance, qui s'organise. Il parle beaucoup de ce phénomène de complexité croissance. Alors, il y a tout un pattern d'évolution qui arrive à l'être humain. Et cet univers peut atteindre son épanouissement par l'être humain, et en particulier par la présence de Dieu, du Christ, le point oméga, qui va amener la création à son achèvement, sa plénitude, comme dit Paul Colossiens, « Oh Dieu sera tout en tous, cette plénitude. » Alors, évidemment, ça ouvre, comme je disais tout à l'heure, un peu comme pour Plan Progression, le champ...
Les possibles.
Exactement. Oui. Et justement, ça nous motive encore davantage à se dire, qu'est-ce qui arrive à cette maison commune? Qu'est-ce qui arrive à cette mission qui est confiée à l'être humain, mais aussi à toute la création qui participe de ce mouvement créateur?
Et frère André Descoteaux, est-ce qu'avec Laudato si, le pape François devient le premier pape à aborder de front la question environnementale, ou le pape François s'inscrit-il plutôt dans une certaine tradition de prise de position?
Bon, c'est clair qu'il s'inscrit dans la tradition. Lui-même le reconnaît parce que dans l'introduction, il va saluer au passage ce prédécesseur à partir de Jean 23. Jean 23 qui avait publié après la crise des missiles de Cuba qui avait failli amener le monde dans une guerre nucléaire, un cataclysme, publie une dernière encyclique, Pacem in Terris, qui a eu un grand retentissement, un moment de crise. Et puis, le pape adresse cette encyclique à tous les hommes de bonne volonté. Et c'est un peu, je dirais, la situation du pape actuel, le pape François. Nous sommes dans une situation de crise. Oui. Et là encore, il ne s'adresse pas seulement aux évêques, aux prêtres, aux laïcs, comme souvent les lettres encycliques le sont, mais il s'adresse à tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté. Alors, il y a déjà quelques similitudes entre les deux textes. Puis ensuite, comme je le disais, il va saluer, il va évoquer le souvenir de Paul VI, qui, dans une lettre adressée au cardinal roi, il souligne que, et là je le cite, brusquement, l'homme prend conscience que par une exploitation inconsidérée de la nature, il risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. Et là, nous sommes en 1971. On peut dire que Paul VI, c'est probablement le premier pape qui a dit « attention, il y a quelque chose qui se passe ». Puis ensuite, évidemment, ce sera Jean-Paul II. Alors, Jean-Paul II, lui, d'abord, son pontificat a été très long, plus de 25 ans. Et puis, ça a été la période durant laquelle la question écologique a pris beaucoup d'ampleur. Puis, en plus, on peut dire que c'est un pape qui, au point de vue doctrinal, a essayé, disons, peut-être de centrer les choses, mais c'était un homme très ouvert à toutes les questions sociales. Il a écrit plusieurs encycliques sur le sujet, le travail, solidarité en rapport avec le mouvement de Solidarność en Pologne. Qu'est-ce que signifie la solidarité? Au moment où le communisme s'effondre en Europe de l'Est, alors, il se pose la question, mais le capitalisme, est-ce que le capitalisme est la solution, la seule réponse? Alors, il y a toute une analyse, une critique du système capitaliste. Mais je dirais aussi que Jean-Paul II, on sait, c'est quelqu'un qui a voulu défendre la vie. On connaît ses positions, en particulier sur l'avortement, mais aussi de la vie dans toute sa complexité. Et alors, il voit bien que le monde actuel est en train de créer un habitat, un milieu dans lequel la vie de l'être humain
est menacé.
Oui. Exactement. Et puis, il va être celui qui va nous dire que la cause n'est pas simplement technique ou économique, ce qu'on va retrouver dans les thèses du pape Benoît, et qu'il y a, par exemple, un rapport de l'être humain à la nature qui fait qu'il y a un désordre qui s'instaure et qu'on en arrive à une exploitation éhontée de la terre. Puis ensuite, un dernier point que j'aimerais souligner au sujet de Jean-Paul II, c'est lui qui a proclamé Saint-François d'Assise le patron des écologistes. Oui. Alors, dans l'encyclique, le pape se réfère évidemment beaucoup à Saint-François, oui. mais c'est quand même Jean-Paul II qui l'a proclamé le patron des écologistes. Bon, après lui, il y a Benoît XVI. Oui. Benoît XVI, lui, évidemment, on peut dire qu'on retient beaucoup ses interventions autour d'un refus d'un certain relativisme moral. Alors, Benoît XVI va dire que l'homme n'est pas une liberté qui s'est créée de soi, il est aussi nature. Autrement dit, il y a quelque chose en lui qui fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec lui. Et il ne peut pas non plus se positionner comme il veut par rapport à la nature, par rapport à la création.
Oui, il parle de l'écologie de l'homme.
Voilà,
l'écologie
exactement.
De l'homme,
puis ce qu'on va retrouver oui. dans
la cyclique
de la date aussi. Mm-hmm. Puis ensuite, le pape, dans cette introduction-là, rappelle la part des autres églises chrétiennes. Le Conseil économique des églises, qui travaille cette question-là depuis longtemps. Souvent, on parle de l'engagement des églises pour la justice et la paix, mais en 1983, lors d'une assemblée, de son assemblée à Vancouver, on ajoute la sauvegarde de la création. Mm-hmm. Puis ensuite, il y a l'idée avec lequel, religieux avec lequel le pape se sent très proche, c'est le patriarche de Constantinople, Bartholomée, on va même dire oui. de lui que c'est un patriarche vert. Mm-hmm. La question du péché et contre l'écologie est présente chez lui. Alors, c'est aussi une autre influence parmi la constellation chrétienne. Puis si je reviens à l'Église catholique, quelque chose qui est nouveau dans l'encyclique, ce sont toutes ces références aux évêques, aux conférences épiscopales.
Oui.
Généralement, dans les encycliques, les papes se citent.
Oui.
Ils se renvoient l'un à l'autre.
Oui, oui, oui.
Mais là, le pape François, souvent, va citer des textes, des conférences épiscopales. Mm-hmm. Il le fait, par exemple, pour le Canada. On trouve mm-hmm. une citation qui vient. Alors, c'est, en même temps, ça montre, quand on dit que le pape François a une vision de l'Église comme synodale, on le voit dans le texte.
Ah oui.
Il nous dit, cette encyclique, c'est un exercice du magistère, de son enseignement, mais il y associe l'enseignement des évêques.
Oui.
Alors ça, pour moi, c'est très, très original.
Mm-hmm.
Puis, évidemment, dans les influences, bien, évidemment, il y a Saint-François d'Assise.
Oui.
Puis, c'est intéressant pourquoi il choisit Saint-François d'Assise. Et là, je vais le citer. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature et la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Parce que cette encyclique-là ne parle pas simplement de faire une terre plus verte où c'est plus agréable de vivre.
C'est ça.
Mais il va dire que la situation écologique, la situation des plus pauvres sont liées.
Oui.
On va voir ça souvent dans l'encyclique. Tout est lié. Et il trouve que, justement, chez Saint-François d'Assise, tout est déjà lié.
Oui.
Il voit pourquoi il s'en inspire. À plusieurs, on va voir, il va le citer, il va rappeler sa figure à plusieurs endroits oui. dans l'encyclique.
Et le pape François, lui-même, bon, est loin de dire qu'il a les compétences techniques là, pour aborder les grandes questions écologiques. Par contre, il le fait, il aborde les questions, il ne se prend pas pour un expert, mais il l'aborde à sa manière. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait écouter le pape lorsqu'il aborde ces questions, les grandes questions écologiques? Qu'est-ce que le christianisme, ultimement, peut apporter à la réflexion mm-hmm. sur l'écologie?
Ben, je veux dire, c'est sûr que le pape est conscient de ses limites,
mm-hmm.
mais quand même, son premier chapitre est consacré à dresser le tableau de la situation. Mm-hmm. Et là, d'une manière, moi, je trouve très belle, il nous inonde pas de statistiques.
Oui.
Écoutez,
pourtant,
c'est le statisticien qui parle, oui. Non, mais quand même, il nous rend compte de la situation, la qualité de l'air, réchauffement de la planète, la biodiversité. Donc, oui. vraiment, tout y passe. Évidemment, il intègre les conclusions des recherches. Il est conscient aussi que tous ne partagent pas son point de vue. Il y a les climato-sceptiques.
Oui.
Mais quand même, il y a une détérioration de la maison commune. Et en passant, encore une fois, c'est la première fois dans une encyclique qu'on voit un pape s'intéresser aussi abondamment aux résultats de la recherche
de la science. Oui.
Et là, c'est au deuxième chapitre. Au deuxième chapitre, qui est une sorte où il va essayer de trouver l'éclairage que peut apporter la tradition chrétienne, la Bible, mm-hmm. les pères de l'Église, les grands spirituels, pour voir un peu comment lire la création. Et la première question qui se pose, justement, quel peut être mon apport?
Mm-hmm.
D'abord, il faut dire que tout au long de l'encyclique, le pape est en mode dialogue, premièrement.
Oui, oui.
Deuxièmement, pour lui, la question, comme disait pour le pape Jean-Paul II, la question écologique ne se résume pas à une question technique. On va planter des éoliennes, mm-hmm. on va faire plus mm-hmm. de recyclage. Il y a un enjeu moral, il y a un enjeu comment l'être humain se situe par rapport à la nature, à la création. Et là, il va dire que le christianisme, comme une sagesse, peut intervenir. Puis ensuite, il va même dire qu'il y a une place pour les arts, pour le regard de, des sagesses traditionnelles, la poésie, oui. la vie intérieure, la spiritualité. Alors lui, il s'inscrit justement comme dépositaire d'une tradition pour y apporter sa contribution.
Mm-hmm.
Mais je pense aussi qu'il y a d'autres raisons pour justifier à ses yeux cette prise de parole. Tout est lié.
Mm-hmm.
Il y a les pauvres. Il y a des nations. Il y a des personnes qui disposent de plus de moyens pour, elles, soit atténuer les conséquences ou adopter de nouvelles mesures par rapport à toutes les conséquences néfastes qu'a la situation actuelle. Tu sais, il parle des inondations des terres, il parle de ces paysans qui doivent quitter leurs terres avec leurs animaux, la désertification. Eux, ils n'ont pas de moyens pour s'en sortir.
Oui.
Alors, il dit, malheureusement, ils n'ont pas assez d'espace dans les agendas du monde.
Mm-hmm.
Alors, lui, veut les inscrire dans les agendas du monde. Et je peux dire que, bon, il ne dira pas lui-même, mais je pense qu'il est comme une parole prophétique
oui.
qui éveille les consciences, bon, dont celle des chrétiens et des chrétiennes. Puis ensuite, justement, quand on dit qu'il n'y a pas de place dans les agendas, c'est qu'il est conscient aussi de la faiblesse des réactions. Et il va dire qu'il faut construire des leaderships qui tracent les chemins. Alors, lui se situe dans cette veine-là. Puis finalement, je pense que son message, c'est aussi un soutien, puis un appel à l'espérance. Et sans cesse, il va dire, les choses peuvent changer, l'humanité est capable de collaborer pour construire cette maison commune. Il entend le cri des jeunes qui veulent que ça change. Il est porteur d'une espérance.
C'est ça. Donc là, c'est un peu sa réponse, en quelque sorte, à ce que pourrait être une espèce d'état d'éco-anxiété généralisée ou de déprime planétaire. Le pape François va intégrer la joie aux grandes questions environnementales. Donc, il propose une écologie joyeuse. On n'est pas ici là, dans l'espèce de sentiment de catastrophe imminente. Là,
attention.
Paralysant.
D'abord, écologie joyeuse. D'abord, le titre de l'encyclique, on peut dire, c'est Louis sois-tu. On peut dire, ben,
oui.
écoute, c'est la joie. Et Louis sois-tu, les premiers mots sont les premiers mots de ce fameux cantique de Saint-François.
Mm-hmm.
Mais j'aimerais juste qu'on réfléchisse ou qu'on s'interroge comment Saint-François, dans quelles circonstances Saint-François a composé ce fameux cantique.
Mm-hmm.
Alors, on peut imaginer un Saint-François tout jeune qui gambade dans les prairies fleuries, les ruisseaux, les montagnes, c'est bucolique, etc., etc. Mais c'est loin de la vérité. C'est loin d'être la vérité. Saint-François a composé cet hymne vers la fin de sa vie. Il est malade. Les choses ne vont pas très bien. Il est découragé. Et c'est une nuit qu'il vit une certaine expérience mystique où il entend une voix qui lui dit « Oui, réjouis-toi, sois en paix. Tu partages déjà le royaume.
Mm-hmm. »
Alors, c'est là, le lendemain matin, où il invite ses compagnons et il se met à chanter le cantique des créatures, où il appelle toute la création à participer à sa joie. Et je dirais que cette expérience de Saint-François peut nous aider à comprendre ce que peut signifier une écologie joyeuse.
Mm-hmm.
L'écologie, s'engager avec l'écologie, c'est aussi faire face à des difficultés. C'est des engagements, c'est des luttes, c'est aussi des découragements, c'est des incompréhensions. Il y en a, puis il y en aura. Mais il peut avoir en soi une paix, une joie intérieure, même s'il y a des difficultés. Alors, écologie joyeuse, puis aussi, pour le pape François, surtout une écologie espérante. Le pape est très lucide. Il parle souvent d'urgence. Les mmh. choses vont pas assez vite. Les chefs d'État se traînent les pieds. Nous avons nous-mêmes des difficultés à nous adapter, à changer nos habitudes
oui.
de consommation, par exemple. Alors, je cite ici. « Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune.
Oui. »
Ça va pas bien.
C'est bon. Ça.
Mais l'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Cependant, des symptômes d'un point de rupture semblent s'observer à cause de la rapidité des changements de mes relations. Vous savez, il est comme on sent tiraillé.
Oui.
Mais quand même, il y a une espérance, puis il va affirmer plus tard que le Créateur ne nous abandonne pas.
Mm-hmm.
On peut aller de l'avant. Personnellement, je n'exclus pas qu'il peut y avoir des catastrophes ou je ne sais trop, qui a des impacts majeurs sur l'être humain, sur la Terre. Mais est-ce que c'est tout est fini? Il y a des choses dans l'encyclique où le pape nous dit « Regardez Noé.
Mm-hmm. »
Qu'est-ce que dit le texte de la Bible? « Parce qu'il y avait un homme juste, Dieu a décidé de ne pas détruire la création. » Et la création reprend. Il s'agit qu'il y ait un être humain qui porte la flamme encore.
C'est ça.
Puis encore, il rappelle l'expérience du peuple qui est en exil. Durant des années qu'il est en exil, mais qui a fini par revenir sur sa terre. Alors...
Ça peut être vraiment un des apports chrétiens, voilà, justement, au discours, c'est ça.
Garder l'espérance, c'est ça. Et c'est l'espérance qui est source de joie profonde. Parce que d'ailleurs, c'est les derniers mots de son encyclique, presque. « Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance.
Mm-hmm. » Oui. Et le pape François parle très souvent de la notion d'écologie intégrale. Cette idée que tout est lié, hein, vous l'avez évoqué, oui. André Descoteaux. En quoi cette notion d'écologie intégrale peut-elle être perçue comme un appel à une véritable révolution culturelle?
Alors, c'est dans la cinquième section de l'encyclique que le pape consacre justement ce thème de l'écologie intégrale. Comme vous dites, tout est lié. Pour lui, l'écologie intégrale, c'est pas juste la question de régler ce que j'appellerais la question écologique.
Mm-hmm.
Hein? C'est, qui implique, on pourrait dire intégrale dans le sens que on sait très bien, ça implique beaucoup des écosystèmes, tout est lié.
Oui.
Au niveau, je dirais, climatique, au niveau de la mer, etc., biodiversité. Mais il y a aussi, tout est lié dans le sens que cette planète, c'est le lieu où on habite.
Mm-hmm.
C'est fait pour l'être humain.
Oui.
Alors, on ne peut pas penser une écologie en faisant abstraction de l'être humain. Non seulement parce que l'être humain a un impact sur cette nature, mais c'est parce qu'aussi c'est là qu'il est appelé à y vivre. Et puis là, je me suis amusé, tu sais, en préparant le cours, à regarder les passages où qu'est-ce qu'il associe dans écologie intégrale. Qu'est-ce qu'il faut intégrer? D'abord, il va parler de la valeur du travail.
Mm-hmm.
Mais le travail, n'est-ce pas une forme privilégiée de prendre soin de la maison commune? Ensuite, il va parler des simples gestes du quotidien, par lesquels on rompt avec une certaine logique, certains comportements, une certaine manière de ne penser qu'à soi, qu'on rompt avec la tentation de la surconsommation. Il va des exemples tout simples, comme chauffer moins les maisons.
Mm-hmm.
Alors, tous les petits gestes qui font que on pense à la maison commune. Ensuite, il va parler du bien commun. Quelle est la place du bien commun? Il incorpore aussi dans cette écologie intégrale le souci des futures générations.
Oui.
Puis ensuite, il va parler de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création. Alors, si j'essaie de résumer, le pape François parle d'une maison commune. Certes, une maison où on doit y respirer, l'eau doit être propre, disponible, il doit y avoir des espaces verts. T'sais, une maison, il fait bon vivre, mais c'est notre maison. Et donc, il devrait y avoir une place pour tout le monde.
Oui.
Il ne faut pas d'exclus. Puis, parmi tout le monde, il faut penser aussi les générations futures. Une maison où le bien commun prime. Comment bâtir même une nouvelle société ou réparer notre maison commune si ce ne sont que les intérêts égoïstes qui domine.
Et à court terme.
À court terme,
d'où
exactement.
D'où la notion peut-être de révolution
exactement.
Culturelle.
Bien commun. Oui. Alors, le travail, comme je l'indiquais, qui crée un milieu de vie et de développement. Alors, l'écologie intégrale, on pourrait dire, c'est comme reprendre le thème de l'écologie humaine.
Oui.
Humaine.
Mm-hmm.
Et voilà. Oui.
Et puisqu'on est tous et toutes interpellés, l'encyclique le date aussi, sur la question environnementale, peut devenir une espèce de tremplin au dialogue et particulièrement au dialogue interreligieux. Donc, le fait de tous et toutes partager une maison commune peut devenir un lieu de rapprochement, un pont entre les diverses églises chrétiennes, mais aussi plus largement entre les diverses religions.
Oui, pour ce qui est des églises chrétiennes, ben, j'ai déjà mentionné la part du Conseil oui. des églises, le patriarche, mais comme je dis aussi, le pape François est en mode dialogue. Et aucune forme de sagesse et tradition spirituelle doit être laissée de côté. Alors, j'aimerais signaler qu'en 2015, la même année où a été publiée l'encyclique, il y a eu un symposium international islamique sur les changements climatiques. Les bouddhistes aussi
oui.
ont préparé des déclarations. Alors, tout le monde voulait apporter sa contribution à la fameuse conférence de Paris. Qui est important. Puis, il y a récemment, je disais, l'intervention d'un musulman, Mohamed Taleb. D'abord, qui était heureux du choix de François d'Assise, parce que ça lui rappelait justement le voyage, la visite de Saint François d'Assise au sultan.
Mm-hmm.
Et il ajoute, l'écologie peut devenir une orientation axiale du dialogue interreligieux. Tout le monde est concerné.
Voilà, c'est ça.
Et comme dit le pape, c'est mode dialogue.
Oui. Frère André Descoteaux, c'est le moment d'une brève pause musicale où on va écouter la pièce « Laudato si, o mi signore » chantée par la chorale de la Maison des étudiants catholiques de Lyon. Et au retour, on poursuit cette réflexion sur l'avenir de la Maison commune et les réflexions du pape François. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence sur les ondes de Radio-VM. Mathieu Lavigne au micro, en compagnie du frère dominicain André Descoteaux, afin de parler du pape François, certes, mais plus particulièrement pour parler de l'engagement du pape François sur une des questions majeures de notre époque, soit la question environnementale. D'ailleurs, le frère André Descoteaux donnera sous peu à l'Institut pastoral des Dominicains, soit dès le 21 mars, un cours ayant pour titre « L'avenir de la maison commune, l'écologie et le pape François ». Frère André Descoteaux, le pape François appelle à une conversion écologique, rien de moins. Que doit-on comprendre par conversion écologique? En quoi une conversion est-elle ici nécessaire?
Oui, pour répondre à la question, je pense qu'il faut se demander de quoi
oui.
pour se détourner.
C'est ça.
C'est question de conversion. Hein?
Oui.
Alors, dans le premier chapitre, le pape François dresse un tableau de situation. Dans le second, Il en appelle à la tradition chrétienne pour éclairer le projet de création. Mm-hmm. Et dans le troisième chapitre, il analyse les causes profondes
oui.
de la crise écologique. Donc, en vue de répondre à la question, il me semble qu'il faut s'attarder un peu, brièvement quand même, à cette troisième section. Alors, le premier élément sur lequel le pape attire notre attention est le suivant. C'est notre manière de nous situer par rapport à la création.
Mm-hmm.
Comment nous percevons la création? Comment nous l'utilisons? Alors, il trouve que notre regard sur elle, notre relation avec elle, est très marqué par l'approche de la technoscience, qu'il appelle oui. la technoscience. Qu'est-ce à dire? Et là, je vais caricaturer. Là. Dans la méthode scientifique et technologique, il y a, d'une part, un sujet.
Mm-hmm.
C'est celui qui fait l'expérience, celui qui étudie, celui qui fabrique. Puis d'autre part, il y a une matière qu'on va appeler l'objet. L'objet est à la disposition du sujet. C'est comme une matière malléable, disponible. Encore une fois, je résume à grands traits. Alors, le pape trouve que cette manière de traiter l'objet déteint sur notre manière de traiter la création. La création devient un objet.
Oui.
Alors,
quelque chose d'extérieur.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est pas que le pape est contre la science, la technique. Lui-même, il reconnaît mm-hmm. tous les progrès et puis même... Il
s'appuie sur la science, oui. oui.
Mais c'est... Il y a une petite phrase là où il dit « Autrefois, l'intervention humaine se pliait aux possibilités qu'offraient les choses elles-mêmes. Il s'agissait de recevoir ce que la réalité naturelle permet de soi, comme en tendant la main. Maintenant, en revanche, ce qui intéresse, c'est d'extraire tout ce qui est possible des choses par l'imposition de la main de l'être humain qui tend à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu'il a devant lui. » Je dirais l'image de la main.
Oui.
La main qui reçoit par rapport à la main qui prend. La main qui prend et qui ne regarde pas du tout ce qu'il prend, c'est à lui.
Mm-hmm.
C'est à lui. Alors, la nature devient comme l'objet que l'être humain peut maîtriser, utiliser à sa guise. La nature devient un stock de ressources. Alors, c'est ce qu'il va appeler le paradigme technocratique. Puis en plus, dans ce paradigme, quand on est au sujet, comme on dit, on est au-dessus des choses. Hein? On est là, l'être humain est au sommet d'une pyramide, puis il peut utiliser comme il oui. veut tout ce qui est en dessous, tout ce qui est à sa base. Et il va ajouter, avec cette mentalité-là qui, en fait, fait confiance aussi qu'à la technique, à la science, bon, on croit que tout est possible, qu'il n'y a plus de limites, plus de limites à la croissance. Alors il va dire, cette croissance illimitée qui a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers, de technologues, suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète.
Oui.
Alors, et là, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ceci, à cette manière de traiter la planète, de voir que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, il va y associer les considérations des économistes, des financiers, mm-hmm. et on sait très bien l'impact de notre système de production, notre système de consommation sur les ressources de la planète,
oui.
sur tout l'impact qu'elle a sur la... Alors, on voit qu'à travers cette manière de concevoir notre rapport à la nature, se greffe aussi un système économique, un système financier qui empire les choses.
Oui.
Et puis, il ne faut pas croire non plus que ça n'a pas d'effet sur les personnes.
Sur nous, ben
nous-mêmes.
Oui.
Alors, il écrit des paroles très fortes sur ce consumérisme obsessif qui nous habite. Encore une fois, je vais le citer. Quand les personnes deviennent autoréférentielles, quand ça devient le centre, hein, et s'isolent, elles accroissent leur voracité. Plus le cœur est vide, plus l'être humain a besoin d'objets à acheter, à posséder, à consommer.
Oui. Remplir le vide.
Alors, on voit très bien là, que c'est une approche, il faut briser quelque chose.
Oui. Il y a
quelque chose à briser.
L'importance du lien, de la relation.
Exactement,
oui.
exactement.
Oui.
Ou briser ce sentiment que l'être humain domine, que l'être humain essaie de tout, centre de tout, qui est l'autoréférence. Alors, d'où la nécessité de la conversion. La conversion, oui. c'est justement briser ce pattern pour aller vers autre chose. Alors, ça veut dire, il faut reconnaître les erreurs, les péchés, se repentir et changer.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, moi, je trouve que c'est très éclairant. Il nous dit que ça prend un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité. Quand on regarde, là, un regard sur la création, qui n'est plus un objet, mais de laquelle nous sommes solidaires, même en communion, pas au-dessus, avec, où la main reçoit. Une pensée, c'est-à-dire une réflexion, une philosophie, une théologie, une sagesse pour rendre compte de nos rapports avec le créé et aussi pour mieux nous comprendre. Une politique, parce que ce n'est pas simplement des comportements individuels, mais c'est aussi une société qui s'oriente et une politique aussi au service du bien commun et qui maîtrise une économie. Oui, avec le pape, on n'est pas simplement là, bon, mettez des chariots, des trucs verts, là. C'est vraiment sur la société, sur l'économie. Ensuite, un programme éducatif. Il faut éduquer l'être humain, nous éduquer nos enfants. Et il va parler de style de vie, rompre avec le consumérisme. Acheter, pour lui, ce n'est pas qu'un acte économique, mais c'est aussi un acte moral. Et développer ce qu'il appelle la spiritualité. Spiritualité, chaque créature reflète quelque chose de Dieu. Toute la création est entourée de son affection. Dans le monde existe un ordre et un dynamisme que l'être humain n'a pas le droit d'ignorer, écrit-il. Alors, on voit bien toutes les facettes de ce que représente cette conversion. Puis, il dit, cette conversion, ne nous leurrons pas, est une révolution culturelle.
Mm-hmm. Oui, complètement.
Courageux.
Tout à fait. Là, on est dans le long terme aussi. Là.
Oui,
on
s'inscrit
faudrait agir maintenant. Mais...
Oui, exactement. Oui.
Et cette conversion appelée par le pape François, est-ce qu'elle n'implique pas également de convertir notre regard sur les textes sacrés, sur des textes comme celui de la Genèse, par exemple? Ou encore, certains pourraient même dire, bon, mais à quoi bon lutter contre la destruction de la planète? La Bible elle-même parle d'apocalypse et de fin des temps, prélude au retour du Christ. Donc, il y a quelque chose à changer de ce côté-là aussi.
Bon, d'abord, la question d'interprétation du premier chapitre de la Genèse. Vous savez, dans le premier récit de la création, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa. Et mâle et femelle, il le créa. Et Dieu les bénit en leur disant, « Soyez féconds, remplissez la terre, dominez-la, soumettez les poissons de la mer. » Alors, trois mots, image de Dieu, domination, soumission, un cocktail très dangereux. Et qui fait qu'on a accusé la tradition judéo-chrétienne d'être justement à l'origine de cette représentation de l'être humain dont je parlais, qui fait de l'être humain un dominateur, qui situe l'être humain en dehors ou au-dessus de la création et qui peut l'exploiter selon son bon vouloir, car il est l'image de Dieu et reçoit le mandat même de Dieu. Évidemment, le pape va rejeter cette interprétation, puis ça vaut la peine de voir comment il le fait. Encore une fois, je le cite. Il a été dit qu'à partir du récit de la Genèse qui invite à dominer la terre, on favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. Bon, c'est ce que je disais. Ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible comme la comprend l'Église. Et là, il ajoute, « S'il est vrai que parfois, nous, les chrétiens, avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créé l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. » Il est important de lire ces textes dans leur contexte et de ne pas oublier, dans le deuxième chapitre de la Genèse, que l'être humain aussi est invité à cultiver et à garder le jardin du monde. Alors, il y a une reconnaissance. Il y a aussi la nécessité de relire et de revoir notre compréhension. Il accepte le blâme, mais en même temps, il affirme que cette interprétation est fausse. Il propose la sienne. Il faut dire que, évidemment, là, il rejoint plein d'exégètes et je disais un commentaire, peut-être faire remarquer que tout de suite après cette bénédiction, quelques versets plus loin, quand Dieu dit à l'homme ce qu'il peut manger, ben c'est seulement les graines de la végétation. Hein. Je vous donne tout l'arbre qui porte la semence. Il n'y a pas question qu'il tue les animaux. Hein.
Ah oui.
Il a créé un être humain végétarien. Alors déjà, il impose une limite à son pouvoir de l'être humain qui n'a pas le pouvoir de tuer l'animal, mais qui doit se nourrir. Alors, on peut dire que l'idéal d'Adam et Ève, c'est d'être végétarien.
Ben oui, bon, ah bon.
Passons. La deuxième question, d'une partie de votre question, pour ce qui est de l'Apocalypse. D'abord, il faut voir un peu ce que ça veut dire, l'Apocalypse. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste. Mais pour moi, c'est une manière de nous dire qu'on s'en va vers des cieux nouveaux, terre nouvelle. Bon, on évoquait Terre de Chardin. C'est sûr que c'est un rapport avec ce que nous sommes. Mais il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Alors, on va dire, ben écoute, ça va être détruit parce que quelque chose de nouveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, qu'on a à se croiser les bras. Puis justement, je reviens à ce premier récit de la création, où, après que Dieu a créé l'être humain, bon, et il se dit, c'est le septième jour, Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa. Achever l'œuvre, ça ne veut pas dire qu'elle est finie. Ça veut peut-être dire aussi que lui a fait sa part. L'œuvre qu'il avait à faire, lui, mais qu'il en reste à faire.
Il y a un relais qui est passé.
Il y a un relais à l'être humain, mais aussi à la création. Et là, le pape François dit, « L'Esprit de Dieu a rempli l'univers de potentialités qui permettent que du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir. » Puis même saint Thomas d'Aquin, quand même un dominicain, je peux citer.
Ben oui, savoir. Certainement.
Il parle que, un peu la création, c'est comme l'artisan constructeur de navire qui aurait accordé au bois de pouvoir se modifier de lui-même pour prendre la forme de navire. Bon, évidemment, saint Thomas d'Aquin, l'évolution pour lui, c'est pas dans son monde. Mais c'est comme s'il y a déjà dans la création des possibilités de devenir, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui va vers un avant. Alors, on parlait de Terre de Chardin, mais dans l'encyclique, il fait un appel à Terre de Chardin. Alors, Terre de Chardin n'a pas toujours été bien vu.
Non, c'est ça.
Alors, on voit une belle note, il parle de Terre de Chardin, et vous savez, c'est une manière très romaine, je dirais, de réhabilitation dans un sens de dire, ben écoutez, lui aussi, il avait une vision des choses, comme j'expliquais. Il va dire, Théodore Chardin, les créatures avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu. Alors là, on voit bien que pas question de garder les bras croisés.
Oui. André Descoteaux, l'idée d'introduire la notion de péché écologique dans le catéchisme de l'Église catholique a été soulevée, notamment dans le cadre du récent synode sur l'Amazonie. De quel péché parle-t-on ici? Comment est-ce que vous définiriez ce type de péché?
Bon, oui, il y en a été, comme vous dites, bien question au dernier synode. Il y a même un des intervenants qui dirait que c'est comme dans la lignée du quatrième commandement, tu ne tueras point. Il pose la question, pourquoi la destruction de la vie, d'une forêt ou certaines espèces animales ne serait pas un péché? Bon. Alors, dans la tradition catholique, bon, c'est plutôt récent. Récemment, il y a eu ce que j'appelle les structures de péché. On est dans un monde qui favorise des comportements destructeurs pour l'humanité, mais je pense que là-dessus, il faut se retourner, il faut aller vers le patriarche de Constantinople, Bartholomée. Puis d'ailleurs, le pape, en 2016, à l'occasion de la journée de prière pour le sujet de la création, va s'associer au patriarche en ces termes. Avec courage, le cher patriarche œcuménique Bartholomée a à maintes reprises et prophétiquement mis en lumière nos péchés contre la création. Là, il le cite, « Que les hommes détruisent la diversité biologique dans la création de Dieu, que les hommes dégradent l'intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides, que les hommes polluent les eaux, le sol, l'air, tout cela, ce sont des péchés. » En effet, un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. Alors, c'est le pape qui reprend pour lui ce que le patriarche Bartholomée avait dit. Et ensuite, il y a un autre détail intéressant dans la date aussi. Parlant de la perte de la biodiversité, il va dire que l'immense majorité de ce qui disparaît, pour des raisons qui tiennent à l'action humaine, à cause de nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. Et cela, nous n'en avons pas le droit. C'est comme si la manière dont on traite la création est un outrage au projet même de Dieu. C'est outrager Dieu. Oui. Alors, on ne me dit peut-être pas que c'est un péché, mais outrager Dieu, pour moi, dans ma tête, c'est pas loin
d'un
péché.
C'est pas loin d'un péché, c'est ça.
Mais voyez un peu la racine, oui. L'idée. Hein?
Puis on va parler aussi d'un péché contre les générations futures. Oui. On va... un péché qui vient rompre les réseaux de solidarité entre les créatures. C'est magnifique, ça aussi, comme, oui, comme image. On parle aussi d'écocide. Moi, j'avoue que c'était une des premières fois que je croisais ce mot-là. Cette notion de péché écologique a notamment été développée dans le cadre du synode sur l'Amazonie, on le disait. Et le pape François vient de publier, le 12 février dernier, l'exhortation apostolique post-synodale Corrida Amazonia, donc Amazonie bien-aimée, oui, en français. Et le pape, il partage ses rêves pour l'Amazonie. Oui. En quoi ces rêves s'inscrivent-ils dans le prolongement de Laudato si?
Bon, il y en a, je pense, il y en a quatre, hein? Mm-hmm. Un rêve de justice... Un rêve où s'épanouit la culture des populations amazoniennes.
Oui.
Un rêve qui préserve la beauté naturelle, mm-hmm, la vie de l'Amazonie. Finalement, un rêve des communautés chrétiennes. Non, tous ces rêves ne sont pas indépendants les uns des autres. Et encore une fois, comme la date aussi, on trouve ce mot, ce leitmotiv, tout est lié. Hein? Tout est lié. Le pape reprend le thème de l'inséparabilité, la protection des personnes, de celle des écosystèmes. Alors, je ne peux pas dire que c'est tout du nouveau.
Mm-hmm.
Je crois que, d'abord, l'encyclique est d'une telle envergure, d'une telle richesse. Tu sais, on n'a pas à créer toujours des nouveaux concepts.
Oui,
là.
Oui.
Mais par exemple, sur... tu sais, on parlait le rapport avec la nature. Il va utiliser des expressions plus proches de la culture amazonienne, vous savez. Dans la date aussi, il reprend le cantique de Saint François. Notre terre est non seulement notre sœur, mais aussi notre mère.
Oui.
Alors, il y en a qui disent, oh, attention, Gaïa est pas trop loin. Alors là, il va parler du fleuve Amazon qui devient le père patriarche.
Mm-hmm.
Lui, la mystérieuse éternité des fécondations. Alors, vous voyez, il a pas peur de... Bon, il métisse son grand, mais c'est quand même la même... même manière d'exprimer la communion, la fraternité qui nous unit à la création, qui est un thème très, très fort dans l'encyclique. Hein. Et puis, il insiste, il faut réveiller le sens esthétique et contemplatif. Nous pouvons l'aimer, pas seulement l'utiliser. Qui plus est, nous pouvons nous sentir intimement unis à elle et pas seulement la défendre. Et alors, l'Amazonie deviendra pour nous comme une mère. Ben, c'est ce qu'on trouve dans la date aussi. Alors,
oui.
Moi, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de très, très différent. On s'inscrit dans...
Réaffirme.
Oui,
dans
puis
fond,
ensuite, qu'est-ce que vous voulez? C'est... La date aussi, je pense que c'est une étape importante.
Mm-hmm.
Et puis, on en recueille les fruits. Bon, c'est sûr que d'autres expériences peuvent peut-être permettre d'approfondir les choses. Et puis, il y a aussi des situations particulières en Amazonie qui auront peut-être émergence d'autres solutions. Mais en fait, on est toujours dans la même lignée. Puis, dans son rêve sur l'Église, il y a une section sur l'inculturation. Alors, il parle de la mystique autochtone.
Oui.
De l'interconnexion, de l'interdépendance. Mm-hmm. Bon, il dit, faites attention, il faudra un jour qu'on découvre que derrière ce tu, il y a Dieu. Mais on voit que, encore une fois, ce qu'il dit là, c'est ça ne surprend pas quelqu'un qui connaît la date aussi.
Oui.
On est dans la même mouvance. Et pourquoi pas?
Mm-hmm, tout à fait. Oui. C'est, dans le fond, il martèle son message.
Oui, voilà.
C'est exactement ça. Et frère André Descoteaux, en adoptant un tel discours sur l'interdépendance des êtres vivants, sur la nécessaire sauvegarde de la maison commune, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en venir à idolâtrer la nature? Vous évoquiez Gaïa là, un peu plus tôt. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en venir à idolâtrer la nature?
Bon. J'ai l'impression que... Pour répondre à ça, il faut se faire un peu mystique.
Mm-hmm.
Bon, ce qui n'est pas toujours très facile pour moi. D'abord, il prend Saint François en disant que la nature, on peut reconnaître en elle un superbe livre dans lequel Dieu nous parle. Mm-hmm. C'est pas sûr qu'il y a la Bible, là, on comprend, là. Mais il y a aussi la nature, nous révèle quelque chose, sa beauté. Écoutez, combien de personnes ne font pas une expérience comme ça? Ils sont face à quelque chose, la nature, l'amour humain aussi, un bébé, je sais trop. Et puis là, ils sentent comme happés par quelque chose de plus grand. Oui. Nous, on met un mot, on met un nom, on va dire Dieu, bon. Mais il y a quelque chose de tellement humain dans ça.
La transcendance.
Alors, hein, oui, c'est ça, ça, exactement.
Oui.
Alors, bon, on ne peut pas dire que c'est idolâtré, mais il y a quelque chose dans la nature qui nous amène à plus haut. Mmh. Dieu nous parle à travers ça. Et puis là, alors il cite Saint Jean de la Croix. Alors, Saint Jean de la Croix, là, je suis obligé de lire le texte parce que c'est un peu...
c'est pas toujours
mystique.
Un peu ça.
Oui, c'est ça. Alors, il nous dit que ce dernier enseignait que ce qu'il y a de bon dans les choses et dans les expériences du monde se rencontre en Dieu éminemment et à l'infini, ou pour mieux dire, chacune de ses excellences est Dieu même, comme si toutes ses excellences réunies sont Dieu. Mm. Non pas que les choses limitées soient divines, mais Saint Jean de la Croix fait une expérience d'une connexion intime entre Dieu et tous les êtres. Et il sent que Dieu est en toute chose. Et j'aimerais aussi, pour répondre à la question, dans l'encyclique, le pape François cite un musulman, un maître spirituel soufi. C'est une petite note. Mm-hmm. Une petite note. Je vais vous la lire. Il ne faut pas... Et là, c'est le soufi. Je ne pourrais pas répéter son nom, là. Mm-hmm. Il ne faut donc pas blâmer de parti pris les gens de chercher l'extase dans la musique et la poésie. Il y a un secret subtil dans chacun des mouvements et des sons de ce monde. Les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle, les arbres qui se penchent, l'eau qui coule, les mouches qui bourdonnent, les portes qui grincent, le chant des oiseaux, le pincement des cordes, les sifflements de la flûte, le soupir des malades, le gémissement de l'affligé. Fin de la citation. Le pape l'intègre à son encyclique.
Donc, une présence au monde, hein? C'est ça, c'est un appel à la présence au monde.
C'est que le monde renvoie à une présence. C'est sûr que penser Dieu, la création, on pense en termes de lieu. Puis Dieu, c'est pas un lieu. Hein? Mm-hmm. Il est présent. Et puis, à travers, quand on va dire, dis-moi ce que tu veux, pas rien qu'en parole, mais par ce que tu fais. Oui. Ben, c'est la même chose. La création nous parle de Dieu.
Par ses actions.
Et puis, elle est intimement liée à lui. Alors, mm-hmm. je pense pas qu'on peut dire que le pape ou Saint Jean de la Croix étaient des idolâtres.
Mm-hmm. Mm-hmm. Bien d'accord. Mais vous êtes peut-être plus mystique que vous pensez, André Descôteaux.
En tout cas, j'essaie d'être attentif peut-être aux expériences.
Oui.
Parce que peut-être, il y a certainement des personnes qui ont peut-être des antennes.
Ouais, une sensibilité particulière.
C'est pas tout le monde qui peut être statisticien.
Non, ça, je le confirme. Et en terminant, André Descôteaux, est-ce qu'il y a des initiatives mises sur pied dans le prolongement de Laudato Si qui gagneraient à être connues, des initiatives menées dans les milieux ecclésiaux ou encore du côté des dominicains, justement?
D'abord, je pense que un des grands objectifs du pape dans l'encyclique, c'est d'éveiller la conscience d'abord de ses frères et sœurs chrétiens.
Oui.
Parce qu'il dit que plutôt qu'il y a des chrétiens qui sont engagés, qui prient, mais qui ne sont pas du tout préoccupés par l'environnement. Parce que les autres, ils veulent être pragmatiques, puis ils veulent être réalistes. Mmh. Alors le pape leur dit, un instant. Puis ensuite, il y en a d'autres, oui, qui savent qu'il y a un problème, mais ils ne décident pas à changer leurs habitudes. Puis en fait, ils deviennent incohérents. Alors, ils ont besoin de cette conversion écologique dont on a parlé. Alors, je crois que d'abord, il y a la date aussi vise à conscientiser. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point il a réussi, mais d'abord ça. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Bon, plus concrètement, il y a aussi au Canada, par exemple, le réseau des églises vertes. Mm-hmm. J'ai pu constater, j'ai passé l'an dernier en France, que ça se développait en France aussi. Leur but, si je dis bien, sauf sur leur site, c'est de soutenir des communautés chrétiennes qui améliorent leurs pratiques environnementales et puis... il y a quelque temps, j'allais à la maison provinciale d'une autre communauté. Et là, en rentrant, je vois un beau certificat d'Église verte attestant des efforts de cette communauté pour respecter l'environnement. Que leur maison, justement, leur lieu était verte, on peut dire.
Oui.
Alors, pour ce qui est des communautés au jus, ben là, c'est peut-être, bon, on recycle. Mon couvent est une fabrique de compost. Vous imaginez tout ce qui se produit en cuisine.
Oui, oui.
Puis c'est une base individuelle aussi. Moi, je vois des familles. Puis moi-même, dans ma famille, j'ai un cousin agriculteur qui, depuis des années passées, a une agriculture écologique.
Ah oui?
Et puis, je sais, dans son cas, lui, c'est clairement aussi une question d'engagement dans la foi.
Oui.
C'est pas juste de dire que peut-être faire des sous. Non, non. Il y croit profondément. Puis, un dernier point que je, peut-être, une question que je laisse. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir nos propres mouvements d'engagement chrétien pour la préservation de l'écologie? Hein?
On peut participer au mouvement.
Exactement. Le pape parle de dialogue. Exactement. Et il nous motive à participer, pas nécessairement à bâtir nos propres choses, mais à nous intégrer avec d'autres, parce que c'est pas juste l'affaire des catholiques, des protestants.
Tout à fait.
C'est l'affaire de toute l'humanité. C'est la maison commune. Et puis, il peut y avoir des divergences. Oui, il peut y avoir des divergences, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer, travailler ensemble.
C'est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure que l'engagement environnemental pouvait devenir un lieu de dialogue interreligieux, mais ça peut devenir aussi un lieu de dialogue croyant-non-croyant.
Ben, c'est évident.
Tout à fait.
Moi, je pense que le pape aussi souhaite que, à travers, non seulement les engagements, mais à travers les motivations, si on parlait de spiritualité, de mystique, qu'on trouve qu'on trouve ce qu'est le christianisme, ce qu'est l'évangile de la création. On a tellement une image qu'on peut avoir de la foi, de l'Église. Non, c'est un instant, c'est beau.
Oui.
C'est beau.
C'est merveilleux.
C'est merveilleux.
Oui.
Même de ce que l'Évangile, du projet de Dieu sur la création et sur nous-mêmes.
Ouais. Frère André Descoteaux, un grand merci pour cette entrevue. Ça a été un plaisir, vraiment. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, je rappelle qu'André Descoteaux est dominicain, qu'il est professeur invité à l'Institut de pastoral des Dominicains, où, dès le 21 mars prochain, il donnera un cours intitulé « L'avenir de la maison commune, l'écologie et le pape François ». Pour plus d'informations sur ce cours, visitez le www.ipastoral.ca ou encore téléphonez au 514-739-3223, poste 323. Je rappelle que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut de pastorat des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM. À bientôt.